Ahimsa, non-violence.
Humilité.
Tolérance.
Respect.
Compassion.
Ahimsa, non-violence, le magazine de la vie positive.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 666, il est 15h et c'est le magazine Ahimsa non-violence qui commence à l'instant. Moi c'est Simon, je suis en compagnie de Gomata aujourd'hui. Salut Gomata, ça va? Voilà, on a notre petite mascotte de l'émission, Gomata, elle est revenue. Ça faisait pas mal d'émissions qu'on n'avait pas fait avec elle. Elle me dit que ça lui avait manqué. Bah ouais, moi aussi tu m'avais manqué, Gomata. Et en plus, bon, on a une invitée aujourd'hui, on a avec nous Elodie. Ça va Elodie?
Bonjour, oui, tout va bien, merci.
Voilà, bah, Gomata te dit bonjour, elle est très contente aussi
d'être Gomata. Avec toi.
elle avait écouté ta première émission qu'on avait fait ensemble, c'était la semaine dernière, il y a deux semaines, on avait fait une première émission avec toi d'introduction à l'Ayurveda en fait, où tu nous avais présenté un petit peu ce que c'est l'Ayurveda et les différents outils thérapeutiques autour de cette médecine traditionnelle indienne. Et c'était une émission super cool, moi ça m'avait beaucoup plu, et puis j'ai eu pas mal d'écoutes, moi je vais toutes les émissions en replay, voilà, toutes les émissions du magazine Ahimsa, vous pouvez les réécouter sur mixcloud.com/Ahimsa, A-H-I-M-S-A-N-V, Ahimsa non-violence, et j'ai eu pas mal de gens qui ont écouté, donc je me suis dit qu'on allait faire une deuxième partie.
Super, voilà. Super.
Donc comme on s'était dit ensemble, Elodie, là, on va faire la deuxième partie qui parle un peu plus de phytothérapie, de plantes, les plantes médicinales dans l'Ayurveda. Et
oui.
Puis tu me disais aussi que avant d'entrer directement dans les plantes, il faut parler un petit peu d'autre chose, c'est ça?
Exact. Oui, alors avant d'aborder le sujet des plantes qui est malgré tout très intéressant, il faut parler ce que l'on appelle du feu digestif, c'est-à-dire de la digestion. Parce que si on assimile mal les aliments comme les plantes, il n'y a aucune utilité derrière de consommer des plantes.
Mmh. Ouais.
Alors, on va parler un petit peu, si ça te va, du feu digestif.
Bah ouais, c'est ça, très bien, ouais. Parce que toi, Elodie, je le rappelle aussi pour les auditeurs là, qui arriveraient, qui découvrent cette émission maintenant, et qui n'ont pas écouté la dernière, c'est que toi, tu es thérapeute. Tu es thérapeute du côté de dans l'est de la France, voilà, t'es pas dans la région de Caen, mais tu es thérapeute spécialisé un petit peu en Ayurveda avec pas mal les outils de l'Ayurveda et voilà, c'était pour rappeler ça juste.
Exactement. Donc je touche un petit peu tout ce qui est alimentation, phytothérapie, donc les plantes et puis aussi je fais des pratiques avec des soins à travers les plantes.
Ouais. Donc, c'est ça. Alors, il y a cette histoire de feu digestif, en fait. À l'intérieur de notre corps, quand on mange des choses, on s'en rend bien compte. Si on fait un gros repas avec plat de fromage, boum, après, on est fatigué et on dort. Donc, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de l'estomac, quand même.
Oui, donc le feu digestif, on peut appeler ça aussi la capacité à digérer. Donc, le feu digestif, donc le feu, il y a certaines personnes qui ont déjà, en fait, naturellement un feu digestif qui est bon, et puis d'autres, à l'inverse, qui est ralenti. Alors, certains, parce qu'effectivement, ils vont manger des fromages, ou ils vont avoir une consommation, une alimentation qui n'est pas toujours adaptée à leur organisme, et puis d'autres, parce que naturellement, en fait, ils vont déjà être de cette constitution de naissance, donc moins de chance. Par exemple, pour les personnes qui seraient de type pitta, ça signifie le feu notamment, ils vont avoir un agni, donc un feu digestif. Agni signifie feu digestif, avec des propriétés similaires à pitta. Est-ce que je me fais comprendre ou c'est un petit peu compliqué?
Oui, c'est vrai qu'on a parlé de ces éléments dans la première émission, où en fait il y a différents tempéraments qui sont pitta, vata et kapha en Ayurveda. Et ces tempéraments définissent en fait un petit peu la nature d'une personne en fait. Voilà, c'était ça, un petit peu ça pour rappeler. Donc j'espère que les auditeurs vous suivent aussi.
Oui, alors en fait le feu digestif doit être avec un bon métabolisme, un bon fonctionnement et nos appareils digestifs, donc la nutrition, la transformation, l'élimination, doit se faire correctement dans notre foie, la vésicule biliaire, la rate, le pancréas, l'intestin grêle, le gros intestin et l'estomac. Donc, quand le feu digestif est fort, la digestion, l'absorption, l'assimilation et la transformation des plantes comme de la nourriture se fait parfaitement. Normalement, c'est ce qui est le cas des personnes de type Pitta. Mais ce n'est pas toujours le cas lorsqu'elles viennent à se dérégler et mangent n'importe comment. Par contre, il y a des gens de type qu'on appelle Vata, hein, c'est-à-dire avec beaucoup d'air dans leur feu digestif, et des gens qui ont aussi cette constitution Kapha, qui eux, à l'inverse, ont un système digestif qui est ralenti, déjà de naissance. Donc, il va falloir être prudent sur ce qu'on va consommer, aussi bien en termes d'alimentation que de plantes. Alors...
Gomata, elle nous dit, elle mange beaucoup d'herbes. Est-ce qu'elle, c'est quoi son... elle a des questions bizarres des fois, Gomata, quand même. Mais elle se demandait, c'était quoi son feu digestif, elle, qui mange beaucoup d'herbes.
Elle mange beaucoup d'herbes. Alors, après, c'est variable.
Bon, c'est donc, en général, les animaux, ils sont bien quand même... Ils sont à l'écoute de leur nature et ils mangent ce qui leur correspond, ils ont cet instinct. C'est nous, les humains, des fois, qui mangeons des trucs un petit peu désordonnés, en fait, qui fait que, bah, qu'on se dérègle, quoi.
C'est vrai. Donc, comment on peut remarquer ça ? Par exemple, quelqu'un qui va avoir aussi bien un animal qu'un être humain, qui peut avoir une bonne digestion, comment on le voit ? Bah, la personne, elle a une bonne circulation, elle a un teint qui est clair, elle a une bonne haleine. Son odeur corporelle est plutôt agréable, elle a une bonne énergie, une bonne résistance aussi aux maladies. Ses selles sont plutôt, je dirais, régulières, elle n'a pas de ballonnement. Tout ça, c'est des signes que vraiment son système digestif est correct. Pour l'entretenir, on peut utiliser des épices légères, ça pique, telles que qu'on connaît bien, hein, la cardamome, hein, par exemple, le curcuma, la coriandre et le fenouil.
D'accord.
Malgré que son système digestif fonctionne correctement, ça ne l'empêche pas de pouvoir encore plus l'améliorer. Donc, pourquoi on regarde tout ça ? Bah, parce qu'en fait, meilleur sera le système digestif, plus longue sera notre vie en meilleure santé avec un bon système immunitaire. Lorsque le feu digestif est perturbé, comment on le voit ? Eh bien, on a des gaz, des indigestions, des ballonnements, des constipations, une langue aussi qui va être chargée. Tu sais, quand on a la langue qui est blanche, souvent on tire la langue, on voit la langue qui est blanche.
La bouche un peu pâteuse aussi, non ?
Oui, c'est ça. On peut s'apercevoir effectivement que là, il y a un petit peu trop de toxines. Alors, tout dépend des zones, hein, parce qu'après, ça, c'est précis. Mais en fonction des zones sur la langue, on peut savoir exactement sur quelle zone, hein, est-ce que c'est sur le système digestif ou ailleurs, hein, qu'il y aurait le plus de toxines. Les odeurs aussi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont agréables quand le feu digestif est bien, mais désagréables quand le feu digestif n'est pas bon. Pareil, on retrouve un teint terne, décoloré pour les personnes qui auraient trop d'air, un teint jaune, hein, sur la peau, hein, pour les gens qui auraient trop de feu, et un teint très pâle pour les gens qui seraient un peu malades.
D'accord.
Avec un mauvais feu digestif, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des émotions négatives. C'est comme ça aussi qu'on peut voir que la personne digère mal, comme les peurs, l'anxiété, la confusion dans la tête. Tout ça aussi, ça en fait partie. Il y a une autre indication, c'est un manque de force et de vitalité, une énergie qui semble être affaiblie pour la plupart des personnes. Et surtout, une mauvaise résistance aux maladies. Il y a certaines personnes qui disent souvent « Oh, bah, je tombe souvent malade ». Donc là aussi, on peut voir que le système digestif n'est pas bon. Alors, le tout, c'est pas de rester comme ça, hein, c'est d'améliorer son système digestif pour après mieux digérer les plantes.
Ouais, voilà, c'est ça. Alors en fait, quand on a ce système... Qu'on a le système digestif comme ça, qui est un peu déréglé, bon, il y a ces signes qui nous permettent de nous en rendre compte. Mais après, d'où ça vient ? Pourquoi ça s'est déréglé ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le rétablir, du coup ?
Alors, quand on ne va pas consulter quelqu'un, parce que des fois, bon, bah, voilà, y a des personnes qui ne consultent pas toujours, elles peuvent déjà, de leur côté, faire... On peut déjà donner 2-3 conseils, hein, dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a un feu digestif qui est variable, hein, ça veut dire qu'il change tout le temps. À ce moment-là, un coup on est bien, un coup on est moins bien, on peut utiliser des épices comme le cumin, le gingembre ou l'azaé fétida. Ça, c'est des choses qu'on peut déjà consommer sans problème, sans contre-indication. Par contre, si on a un feu digestif qui est fort, donc le système immunitaire l'est aussi, il n'y a pas de maladie. Donc à ce moment-là, là aussi, on peut utiliser les épices que j'ai indiquées tout à l'heure pour l'entretenir. Mmh. Si on a un feu digestif qui est en excès, c'est-à-dire qui est hyperactif, avec une digestion qui est brûlante, hein, des fois il y a des gens qui se plaignent d'avoir des brûlures digestives, il faudra utiliser des nutriments pour amaigrir, en fait, pour faire mincir, ainsi que des plantes, et pour remonter le système immunitaire. Et si on a un système digestif qui est diminué ou faible, donc ça veut dire que la digestion, en fait, elle est lente, que la circulation, elle est mauvaise, que le teint, il est terne, hein, tout ce qu'on a indiqué tout à l'heure, avec des gaz, à ce moment-là, il faudra remonter le système immunitaire qui est touché en éliminant les toxines. Hein. C'est là où on peut parler des toxines dans le corps.
D'accord, ok, ouais. Donc, c'est vrai qu'après, voilà, mais c'est des choses assez techniques finalement. Quand quelqu'un se rend compte qu'il va avoir ce petit dérèglement, l'idéal, c'est vrai que c'est de consulter avec quelqu'un. Parce que toi, quand tu fais tes consultations, tu regardes ces petits signes cliniques, mais aussi plein de choses dans la nature de la personne pour lui conseiller quels sont les aliments, les épices à prendre, quoi, j'imagine. Voilà, c'est pas. Là,
c'est vrai.
Dans cette émission, on aborde comme ça, on présente un petit peu, mais on avait besoin de passer par cette petite description du feu digestif parce que c'est un petit peu la chose préparatoire, le préliminaire, avant de pouvoir parler de prendre des plantes médicinales.
Oui. Donc le feu digestif, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi améliorer les couches de toxines dans le corps, parce que ça vient aussi nous affaiblir. Et à ce moment-là, si on prend des plantes et qu'on a trop de toxines, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas assimiler la plante.
D'accord.
D'où l'intérêt, en fait, de vraiment faire attention à tout ça.
Mmh. D'accord.
Alors, comme... Oui, pardon, vas-y.
C'est bien ça, ces idées de toxines, en fait, un petit peu. C'est des choses que nous, à travers notre environnement, en fait, on va se charger un petit peu de choses comme ça. C'est vrai que des fois, on parle de métaux lourds ou quand on mange des aliments industrialisés. Par contre, par exemple, il y a beaucoup de choses un peu chimiques dedans. Et ça reste dans le corps, c'est ça. Et c'est ça qui nous amène les toxines. Ou les toxines, c'est autre chose.
Oui, c'est ça. On peut dire que c'est les émotions négatives. Il y a ça. On peut dire que c'est l'excès de nourriture. Aujourd'hui, parfois, on a tendance à manger un petit peu trop par rapport à l'activité qu'on peut faire. Hein. L'excès de boissons, l'excès de jeûne aussi. Hein. Le jeûne en Ayurveda est très conseillé, mais il est conseillé qu'un seul jour par semaine, hein, avec la prise d'épices.
D'accord, c'est déjà pas mal. Un jour par semaine de jeûner, ça fait...
Oui. Donc, c'est très conseillé, mais c'est vrai que l'excès de jeûne, hein, à force d'en faire, des fois, les toxines aussi peuvent remonter. D'accord. En excès, et du coup, on n'arrive plus après à gérer le corps.
Ah ouais.
Et ça fait des dérèglements. Mmh. Donc, ça peut être très positif comme très négatif aussi.
D'accord.
Donc, il y a ça. Il y a aussi les grignotages entre les repas. Le fait qu'on mange un petit peu trop. Les repas à n'importe quelle heure. Mmh. Les émotions réprimées. Hein, donc, ça, je l'ai dit. L'excès d'aliments. Hein, qui serait lourd, froid, humide, gras, sucré, toutes les sucreries en fait, hein, les laitages, les fromages qu'on a parlé aussi tout à l'heure, l'alcool, après les choses quotidiennes, le tabac, le café, le fait de trop dormir aussi. Hein, si on dort de trop, c'est pas bon parce que justement on va accumuler toutes ces toxines dans le corps. Une vie aussi qui serait trop sédentaire, quelqu'un qui est trop léthargique, qui fait rien de ses journées. Et une chose qui est importante, auquel on ne pense pas souvent, c'est l'association d'aliments ou l'association de plantes qui ne seraient pas adaptées.
D'accord.
Au corps.
Ah, ouais,
D'où
ouais.
L'intérêt, effectivement, de consulter quelqu'un.
C'est ça, c'est comme manger, par exemple, un fruit à la fin du repas. Ça ne va pas forcément être digéré comme il faut, si on a mangé d'autres choses avant.
Oui.
C'est ça, c'est un type de mauvaise association qui est assez fréquente, finalement. Non
oui. Et puis, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est donner 2-3 conseils pour éviter, en fait, d'accumuler les toxines. Puis, comme ça, on pourra enchaîner sur tout ce qui est plantes.
Ouais, écoute, on peut faire ça. On finit un peu sur les toxines, puis après, on se mettra un petit morceau de musique avant de passer sur les plantes. Ouais.
Donc avant le repas, on peut déguster quelques fines tranches de gingembre frais arrosées d'un filet du citron et de sel. Pour vos repas, on peut mâcher, puisque c'est important de prendre le temps de manger, boire du lassi épicé au cours du repas afin d'améliorer la digestion. On peut faire griller les épices en graines, hein, hein, donc on peut déjà commencer à parler de deux, trois plantes, la moutarde, le cumin, qu'est-ce qu'on a d'autre? La coriandre. Ceci permet en fait d'éliminer l'air des graines, le fait de faire griller. Et ça permet aussi d'éviter des ballonnements. Pour ceux qui aiment le ghee, on peut consommer du ghee et des épices qui vont être adaptées à chaque constitution. Hein, c'est important aussi, puisque les épices, c'est un peu comme les plantes. Hein, il faut que ce soit adapté à chaque personne. Les choses à proscrire qui paraissent logiques, c'est tout ce qui est sucrerie en fin de repas. Hein, il faut surtout pas prendre de sucreries. Les mauvaises associations alimentaires. Éliminer tout ce qui est nourriture industrielle et raffinée, comme les conserves, les surgelés, la margarine, les pâtisseries. Diminuer fortement, alors je vais peut-être faire du bruit, mais la consommation de viande. Hein. Voilà, parce que si on en consomme de trop, bah, c'est pas bon pour les toxines, ça en rapporte de trop.
Alors, pour la viande, nous, on est totalement pour. D'ailleurs, Gomata, ici, elle a sa petite chronique. Elle a fait plusieurs émissions Gomata où elle a lancé un truc, c'est la chronique des végétariens anonymes. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Mais
Super.
voilà, on parle beaucoup du végétarisme. Et le végétarisme, c'est quelque chose de bien. Vous pouvez tous le faire. Et on a cette émission pour vous aider et pour vous donner plus d'infos si ça vous intéresse, quoi.
D'accord, super. Alors, sinon, comme petite information, voilà, concernant toujours pendant les repas, ne pas mélanger le cru et le cuit. Souvent, ça arrive hein, que les personnes font un petit mélange des deux.
Ah ouais? Du coup, les
Oui.
crudités en début de repas, c'est pas. Moi, je croyais que c'était bien justement parce que
Eh
ça apportait des
bien,
enzymes un petit peu pour démarrer la digestion.
bah oui, puisqu'on parle de cru, c'est pour ça que je me permets de dire ça. En fait, ça dépend de chaque constitution de personne. Il y a des personnes et où on va commencer par le cru et d'autres, on va finir par le cru.
D'accord. Ah
Hein,
ouais.
d'accord?
Ça dépend de leur
Voilà.
feu digestif en fait, c'est ça, parce que des fois,
Exactement.
t'amènes. Ouais, c'est comme tu veux démarrer un feu, puis tu mets d'abord les glaçons, on va dire. Le truc, il s'éteint,
Et
quoi.
oui.
D'accord.
Et puis la chose qui me paraît importante souvent, c'est aussi manger dans le calme, sans émotion, sans bavardage. Normalement, on ne devrait pas parler à table. Et
Ouais.
bien se concentrer sur l'alimentation qu'on
C'est vrai.
mange pour prendre conscience.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc ça, c'est pendant le repas. Et puis après le repas, ce qu'on peut faire aussi, c'est boire une petite tisane de graines de coriandre, de cumin. On peut ajouter du fenouil et puis de l'anis verte. Ensuite, on se lave bien les dents et on va faire une petite promenade digestive
Bon
pour
bah
éliminer
super.
tout ça, pour éliminer les toxines. Faut bouger. Entre les repas, on ne doit pas grignoter, comme j'ai dit tout à l'heure. On doit laisser un intervalle aussi suffisant entre deux repas, hein, pour que les toxines puissent aussi s'éliminer. C'est 3 heures minimum.
D'accord, ouais.
Le soir, le dîner est au moins 3 heures avant de dormir, au moins. Et la petite chose qui est pour moi logique, hein, mais peut-être pas pour tout le monde, c'est ne pas manger quand on n'a pas faim. D'accord? Faut vraiment apprendre à s'écouter. Et ça,
Ok.
c'est important.
Super, bah écoute, c'est plein de super conseils de vie de vie saine. J'adore. Merci beaucoup Elodie. Donc là, c'était notre première partie de présentation sur feu digestif et toxines pour nous préparer à avoir des plantes. On se met un petit morceau de musique et on continue avec ça si tu veux bien. Là, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Triple 6 et le magazine Aïmsa Non Violence. On continue. Bon, on vient de commencer cette émission. C'est la partie 2 sur l'émission spéciale Ayurveda. Et cette fois-ci, on parle un petit peu plus plantes médicinales. On a parlé à l'instant de quelles sont les conditions préalables au niveau de notre physiologie pour bien être à même de bénéficier au maximum des propriétés des plantes. Voilà, ça passe par une détoxification ou détoxinification, comment on dit, Elodie?
Détoxification.
Détoxification, merci. Et puis, de bien veiller à notre feu digestif. Voilà, Elodie vient de tout vous expliquer sur ça. Et maintenant qu'on a bien préparé notre petit bidon, comment on fait avec les plantes ?
Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que si on a un mauvais système digestif ou si on a peur d'avoir un système digestif qui n'est pas prêt à accueillir des plantes qui pourraient nous aider pour le sommeil, par exemple, ou pour le système nerveux, il est bien d'utiliser des plantes qui vont être bonnes pour la régulation du système digestif. Donc, en prévention, en quelque sorte. Donc, pour le système digestif et aussi pour l'élimination des toxines. Donc, on a des petites formules, en fait, qu'on peut utiliser. La formule qui s'appelle Trikatu. Alors, soit on la trouve directement et on voit que c'est écrit Trikatu. Soit, Trikatu, il faut savoir que c'est un mélange de marika, qui est une plante, le pipali, qui ressemble un peu au poivre noir, et le gingembre.
D'accord.
Alors, cette formule Trikatu, c'est très bon pour la respiration, pour les poumons, pour la digestion, et ça permet d'éliminer les toxines. Donc ça peut être une première approche.
Mmh.
Et il y a une seconde formule qui s'appelle Trifala. Donc pareil que Trikatu, ça peut se trouver aussi comme ça. Trifala, c'est très bien, par exemple, pour les gens qui auraient des troubles du système nerveux aussi. Moi, ce que je conseille régulièrement, un peu plus Trifala que Trikatu, puisqu'aujourd'hui, les gens sont un petit peu plus agités mentalement. Le Trifala, ça régule le système digestif, c'est un régénérateur du corps, il est antioxydant et pareil, il réduit aussi les toxines, il permet une meilleure assimilation et une meilleure élimination des polluants du corps. Donc cette formule Trifala contient de l'amalaki, du bibitaki et de l'aritaki.
Ah ouais, ok. Là, on est vraiment sur des plantes indiennes, spécifiques.
Voilà. Mais dans le temps, on avait des difficultés à trouver ces plantes indiennes. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. On peut facilement en trouver dans les pharmacies ou dans les parapharmacies.
Ouais, des mélanges comme ça, Trifala, limite en magasin bio aussi, on peut en acheter, je crois. C'est assez fréquent maintenant. Ouais.
Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je me permets de le dire, parce qu'effectivement... on trouve plus facilement aujourd'hui les plantes qu'il y a encore 5-6 ans où c'était compliqué à trouver. Mmh. Donc pour certaines personnes qui auraient des doutes, qui n'oseraient pas consommer les plantes indiennes, là franchement, il n'y a aucun risque pour ces plantes-là.
Ouais.
D'accord.
Et donc on se fait une petite cure de Trifala, disons, pendant une semaine, et après on passe à d'autres plantes, non ?
Beaucoup plus longtemps, puisque quand on a déséquilibré son corps, il faut savoir que c'est 3 à 6 mois.
Ah ouais, d'accord.
D'accord, c'est vraiment, oui, ça prend vraiment du temps en fait de réguler le système digestif. Vraiment, c'est très très important. Et une fois que le système digestif sera régulé avec ces plantes-là, on pourra assimiler ensuite d'autres plantes.
D'accord.
Et là, ça va être bénéfique. Alors que avant, il y a aucun intérêt en fait, ou alors on va assimiler qu'à 30% la plante. C'est pas que ce sera pas efficace, c'est juste qu'on va moins bien l'assimiler. Alors, ce que je peux peut-être donner comme indication, puis après je repartirai sur les plantes, c'est ce qu'on appelle des anupanas. J'avais commencé à en parler dans le premier volet. Donc les anupanas, c'est les véhicules qu'on peut utiliser en fait pour améliorer, pour cibler certains tissus du corps. Alors pourquoi j'en parle ? Parce que c'est important, en fait, ça permet de donner un pouvoir à la plante supplémentaire. Donc là, c'est pour ça que je redonnerai après peut-être des détails sur les plantes, sur la phytothérapie.
Ouais.
Sur certaines plantes, si ça te convient comme
ouais,
ça.
Ouais, super. Ouais.
Hein?
Et donc ça, ces anupanas, ces véhicules pour cibler les tissus, tu peux nous refaire un petit rappel, non ? Je me souviens même plus moi-même, tu vois.
D'accord, oui, c'est pour ça que je te demande. Donc les effets des anupanas, ça veut dire un véhicule, finalement, qui va nous permettre de diminuer un dosha, donc de diminuer l'air, de diminuer le feu, de diminuer le mucus dans le corps. Mmh. C'est quelque chose qui va vraiment avoir une action sur le système, soit digestif, soit ailleurs. Ça peut être sur le cerveau, ça peut être le problème ORL, etc. Donc tout ce qu'on peut utiliser en Ayurveda, parce que je ne vais pas pouvoir ici et maintenant donner tous les détails, ça ferait beaucoup, mais tout ce qu'on utilise dans la médecine indienne, c'est en plus avec la plante, quand on prend la plante, On va prendre du lait chaud, donc du lait chaud animal ou végétal aussi, hein, puisque aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui utilisent des laits végétaux. Et là, ça va plus avoir une action, par exemple, sur le cerveau, sur les poumons, sur les reins.
D'accord, ok.
On peut utiliser aussi l'eau, hein, très bien, hein, l'eau qui est très bien, et qui là aura plus une action sur les reins et la vessie, par exemple. On peut utiliser aussi le gui à fondre, le miel, qui est très bon. Au final, qui est très bon pour, qui a une action sur le pancréas. Hein, c'est ça, c'est là où c'est très. C'était très contradictoire, mais ça a une action sur le pancréas, ça permet de le réguler, le diabète comme l'hypoglycémie, les deux. Tout dépend en fait du miel qu'on utilise.
Ah ouais. Donc c'est ça, et ces véhicules, en fait, c'est des petites choses qu'on va prendre aussi, bah, par exemple, ces plantes en poudre, on les met dans une cuillère de miel, par exemple. C'est comme ça que ça va fonctionner, non? Les anoupanas?
Oui, c'est ça. Alors, soit en poudre. Après, certaines personnes vont préférer en gélule, casser la gélule et récupérer la poudre, par exemple. Voilà, c'est vraiment... C'est un véhicule. C'est ce qui permet de transporter et du coup, qui va toucher directement l'organe.
Trop bien,
en question,
d'accord.
Qu'on a envie, en fait, de toucher. Par exemple, le pancréas, on est d'accord, normalement, on n'utilise pas de sucre. Puisque le pancréas, on dit toujours que le sucre n'est pas bon pour le corps.
Ouais.
Mais pour attirer le pancréas, on va utiliser du sucre et la plante avec.
D'accord.
Comme ça, ça va aller directement sur l'organe.
D'accord.
Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu pour piéger l'organe.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va lui donner une petite. Ah ouais, je vois le. Trop bien. D'accord.
Donc, c'est le sucre complet, hein, d'accord,
ouais.
Pour le pancréas. Hein. Donc, ça peut être le miel, ça peut être le sucre complet ou ça peut être le jus de fruits aussi.
D'accord, ouais.
Ça peut être plusieurs choses à la fois. On peut utiliser aussi l'alcool. Hein.
Ouais. C'est ça, parce que
l'alcool qui est...
Ouais. Souvent, ici, en France, quand on va faire des plantes médicinales en France, on les utilise en tisane ou en teinture mère. Donc, c'est le principe. Mais nous, on parle d'excipients, en fait. Ce sont des choses qui permettent d'extraire les propriétés des plantes et de les conserver. Mais dans l'Ayurveda, il y a aussi, en fait, un petit peu cet aspect. Sauf qu'il y a, en plus, l'aspect que ça va activer, en fait, un signal dans l'organe qu'on va vouloir cibler. Et ça va permettre plus, au niveau physiologique, de faire venir la plante, en fait, sur l'organe qu'on cherche avec ses différents anupanas, ses différents véhicules. Hein. Donc, tu disais miel ou alors aussi le lait chaud ou l'eau, par exemple.
Oui. Alors, on a le vin aussi, hein, qui est pour le foie.
D'accord.
On a le gel d'aloe vera.
D'accord,
qui est très bon pour la peau, qui est très bon pour le foie aussi, l'intestin grêle. On l'utilise beaucoup, le gel d'aloe vera, hein, pour la digestion aussi. On a les décoctions de gingembre chaud, qui est très très bon pour tout ce qui est toxines, colon,
ça,
intestin.
C'est un véhicule aussi, le gingembre chaud?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Oui. Et on a le jus de fruits, hein, qui va être un peu acide pour certaines personnes, mais très bon pour le pancréas, pour l'intestin, pour les gens qui vont être anorexiques. Voilà, donc on utilise vraiment des véhicules, hein, pour aller directement cibler le problème. Alors, pour la petite info, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à dormir ou qui font des insomnies. Donc c'est pour ça que je le dis, tout ce qui va être insomnie, c'est le ghee qu'on utilise.
D'accord. Donc le ghee, c'est du beurre clarifié.
On
trouve ça un peu partout. En fait, c'est du beurre qui va être séparé en fait du petit lait et ça fait que c'est un beurre sans lactose en plus. Donc c'est les gens qui sont intolérants au lactose par exemple, vous pouvez prendre ça comme matière grasse, c'est très très bon. C'est excellent. Et alors pour dormir comme ça, comment tu l'associes avec une plante ou comment tu fais ou...
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, l'ashwagandha, par exemple.
D'accord.
Hein, qui est une plante. Alors, l'ashwagandha, elle est très bien comme plante, mais encore une fois, hein, il faut avoir un bon système digestif. Et ensuite, une fois que le système digestif est régulé, on peut l'utiliser. Comme toutes les plantes, en fait, hein, qu'on peut retrouver. Donc, pour l'ashwagandha, qui est une plante assez légère, pénétrante. Qui est une très belle plante. En fait, cette plante-là, elle a été connue sous le nom de ginseng indien. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
Oui.
Ouais, on l'appelait
le ginseng parce que c'est vrai que le ginseng, c'est une plante qui va avoir un effet sur les hormones, ce qu'on appelle une plante adaptogène. Et elle fait ça aussi, la ashwagandha.
Oui, exactement. Alors, elle est utilisée en Ayurveda, mais depuis très longtemps, en fait, hein. Donc, elle est cruciale. C'est vraiment un traitement ayurvédique pour plusieurs problèmes de santé. Donc, on parle du sommeil, mais on peut parler de beaucoup de choses, hein. On peut parler de la vitalité, de la longévité.
Ouais.
Elle améliore la mémoire. Elle a vraiment beaucoup de choses, hein. Beaucoup de
Ouais.
points très intéressants. Elle préserve les fonctions mentales. Elle augmente l'intelligence.
C'est assez magique hein, comme plante.
Ah ouais, elle est super bonne pour tout ce qui est cerveau qui dégénérerait, hein, des démences. Et en plus de ça, elle a des propriétés anti-inflammatoires.
D'accord.
Donc elle est largement utilisée dans les troubles inflammatoires. On lui donne un autre nom, c'est Wiltania somnifera, hein, puisque quand on utilise des plantes, il faut aussi regarder les propriétés latines
D'accord,
des
ouais.
plantes pour avoir de la qualité au niveau des plantes, hein, parce qu'aujourd'hui on a un petit peu de tout aussi, hein.
Ouais.
Donc cette plante-là, elle va aider à améliorer le système immunitaire. C'est un puissant adaptogène et des herbes aphrodisiaques qui sont utilisées aussi pour les impuissances, hein, impuissances sexuelles, les cancers, les fausses couches qui sont fréquentes chez les femmes, la faiblesse utérine, l'asthme, les anémies quand on est un peu trop fatigué. Des maladies aussi qu'on retrouve souvent, c'est l'arthrose, les polyarthrites rhumatoïdes, elle est très bonne pour ça. L'anxiété, le stress, la dépression, enfin, elle est super bonne pour tout ça. L'hyperactivité. Et je la donne aussi aux personnes qui ont la maladie de Parkinson.
D'accord, ok,
Voilà.
wow.
Donc, elle est très puissante, hein.
Ouais, c'est excellent. Mais
Donc, le son du mot Ashwagandha, ça signifie l'odeur de cheval. Alors d'abord parce que l'ashwagandha, en fait, elle dégage une odeur de cheval. Et la deuxième raison, c'est qu'on pense que la consommation d'ashwagandha sous forme que ce soit peu développée ou que ça améliore la vitalité, au niveau des énergies, en fait, elle a une force similaire à un cheval.
Ouais, hein, c'est une plante puissante, quoi.
Oui. Donc on la trouve, elle est disponible sur le marché. En tant que formulation d'herbe unique, donc c'est facile à la trouver, mais aussi on peut, si on le souhaite, combiner avec d'autres herbes.
Alors,
Donc comme...
la shwagandha, c'est une racine, il me semble. Ce qu'on utilise, c'est la racine de la plante. Hein.
Oui,
Je crois que.
c'est ça, c'est la racine de la plante. Alors après, la poudre qu'on appelle tchournam, elle est généralement consommée, donc comme je t'avais expliqué tout à l'heure, en fait, avec du ghee. Mais on peut la prendre aussi avec du lait, de l'eau ou du miel.
D'accord.
Hein, c'est vrai, c'est des anoupanas, hein, ce que j'expliquais tout à
Ouais,
l'heure, les
c'est ça.
véhicules.
Ouais. Donc on prend une cuillère qu'on met dans un mélange comme ça, soit ghee ou lait. On mélange et puis clac, on prend ça. Tout
Oui,
simplement.
alors tout dépend de la constitution de chaque personne, hein. Comme j'avais indiqué un petit peu dans la première partie, effectivement, en fonction de chaque constitution, on doit plus ou moins augmenter la dose. Donc pour les gens qui seraient un peu maigres ou assez élancés, on va dire 5 grammes, hein, pour faire un peu juste. Et puis les autres qui seraient un petit peu plus forts, carrés, on va dire 8 grammes, hein. Donc 5 grammes, si on veut bien, effectivement, c'est une cuillère à café, pour donner une idée. Donc
D'accord,
là, c'est
ouais.
quelque chose qu'ils peuvent consommer.
Ok.
Une fois que les toxines sont éliminées, hein, et que le digestif est bien,
Bah c'est
je
ça,
répète.
ouais, qui est la préparation.
Donc, on l'utilise en Inde, on l'utilise au Sri Lanka, et les anciens Védias de la médecine ayurvédique utilisaient ce remède dans leur famille. Et ça fait 3000 ans que ça existe. Donc, les racines, elles sont utilisées en médecine ayurvédique avec des fins aphrodisiaques et rajeunissantes. Hein. Ils disent bien, hein, souvent que l'ashwagandha vraiment permet de rajeunir.
Ouais, non, c'est une plante su super à avoir. Et d'ailleurs, bah, ça peut se cultiver un petit peu en France, cette plante-là. Alors souvent, c'est vrai qu'on va cultiver des trucs en France. Il y a peut-être, il y a pas le même terroir qu'en Inde, le même climat, etc. Mais la plante a quand même des propriétés. Et sachez juste que voilà, comme c'est une racine qu'on utilise, la plante, faut qu'elle grandisse pendant peut-être 2-3 ans avant de pouvoir l'utiliser en médecine. C'est pour ça aussi que voilà, faut qu'on prend des médecines naturelles comme ça, c'est quand même une pression un petit peu sur l'environnement. Et faut pas faire n'importe quoi avec. respecter la plante, être vraiment dans un respect, donc de se préparer, comme on disait un petit peu pour la prendre avant, et puis de ne pas en faire n'importe quoi, quoi. Et si vous voulez en cultiver chez vous dans votre jardin, c'est possible. J'avais vu sur le site de Cocopelli, il y a même une petite vidéo, un petit tutoriel sur comment cultiver l'ashwagandha. Ils faisaient aussi, ils ont dans leur catalogue des graines d'ashwagandha. J'avais vu, donc en petite info complémentaire, si vous souhaitez, c'est un truc à voir aussi, quoi.
Oui, c'est vrai. Oui, parce que là, on a parlé des racines tout à l'heure, mais on peut utiliser sur la ashwagandha les feuilles, on peut utiliser les graines, on peut utiliser les fleurs. Franchement, elles possèdent des propriétés thérapeutiques juste merveilleuses, quoi.
Trop bien, super.
Ouais. Hein, donc, tous les gens qui sont nerveux, les cas de coma, les somnolences, voilà, ils peuvent utiliser cette plante-là. Hein. C'est une plante qui est anti-stress.
Ok, ouais.
Finalement.
Est-ce qu'il y aurait une autre plante que tu pourrais nous présenter aussi comme ça, qui est assez, assez incroyable?
Oui. Il y a plein d'autres plantes. Hein. L'Arjuna, qui s'appelle Terminalia Arjuna. Donc l'Arjuna, A-R-J-U-N-A, donc qui est une très belle plante. Pareil, on utilise la partie qui est la racine de la plante.
Mm-hmm.
C'est un petit peu comme, l'ashwagandha. Donc, cette Terminalia arjuna, c'est une plante. Alors, pourquoi je donne les noms en médecine en latin? Parce que des fois, on les trouve pas forcément aussi avec le nom arjuna.
Oui,
il faut chercher Terminalia arjuna.
Voilà. Ouais.
Donc, c'est une plante médicinale principalement utilisée pour les maladies cardiaques. Alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, en ce moment, on va avoir des fortes chaleurs. Donc forcément, le rythme du cœur va être amené à accélérer. Donc c'est pour ça que je parle notamment de cette plante-là. Donc elle a des propriétés cardioprotectrices du cœur et cardio-renforçantes. Alors elle est un petit peu particulière à prendre. Elle a un goût très particulier, mais par contre, elle renforce les muscles du cœur. Donc il faut voir ses propriétés. Donc elle va normaliser le rythme cardiaque. Donc l'arjuna, ce qu'elle fait, elle permet d'améliorer le sang, le cholestérol, elle diminue le cholestérol, et elle va stimuler la circulation sanguine sans que le sang perde sa capacité de coagulation. Je dis ça parce que j'ai des personnes qui me posent la question. Donc elle va réguler autant l'hypertension que l'hypotension aussi.
D'accord.
Donc c'est une bonne source une bonne source de minéraux. Comme le calcium et le magnésium. Donc, ça peut prévenir de tout ce qui est ostéoporose, ou à l'inverse, si on a de l'ostéoporose, on peut en prendre aussi. Et en même temps, elle va améliorer la densité minérale osseuse. Donc, elle va avoir une protection sur plein de choses encore. Hein. Elle va avoir une protection sur les ulcères, sur tout ce qui va être gastro-duodéno, les problèmes d'ulcères. Elle va arrêter les saignements, les troubles de la coagulation. Elle va être bénéfique pour ça. Elle va réduire la fréquence des mictions, quand on va un peu trop souvent aux toilettes. Et puis, qu'est-ce qu'elle va avoir comme... Et pour tout ce qui est gestion de la leucorrhée aussi.
D'accord. Donc ça, finalement, c'est pour l'arjuna. On parle de cette plante de l'arjuna.
Voilà, exactement. En botanique, c'est arjuna, donc arjun tree. Enfin, elle a plusieurs noms. Hein, mais souvent, on la trouve sous le nom Terminalia arjuna.
D'accord, ouais. Est-ce que le neem aussi, c'est une plante que tu connais, qui est utilisée? Je sais qu'on peut en trouver assez facilement, que c'est un truc qui coûte pas cher aussi, ça, le neem, et c'est un goût horrible par contre. Moi, j'en ai pris une fois, c'est tellement astringent, c'est waouh, ça donne des frissons rien que de le boire, mais c'est une plante en fait qui est très très puissante sur le système immunitaire, il me semblait, non?
Oui, donc il n'y a pas de souci. Si tu veux parler du neem, on parle du neem. Je connais un petit peu toutes les plantes en médecine indienne. Alors, pas toutes, hein, mais j'en connais pas mal. Alors, le neem, on peut aussi l'appeler nimba. On peut aussi l'appeler Azadirachata indica. Hein. Donc, cette fois-ci, le neem, on utilise la fleur, le fruit, la feuille ou l'écorce.
D'accord.
Donc, c'est pas la même chose encore que ce qu'on a vu tout à l'heure.
L'arjuna, on était sur une racine, hein, c'est ça aussi.
Oui, ouais. L'arjuna, c'est plus sur une racine, un peu comme le gingembre, voilà, tout ce qu'on peut trouver. Alors, le neem, parce que tu veux parler du neem, c'est une super, superbe plante. Elle, c'est un anticancéreux.
D'accord.
Elle va soigner les affections cutanées, elle est antibactérienne, antivirale, elle contrôle le sucre dans le sang, elle est vermifuge. Quand on a de la fièvre aussi, on peut l'utiliser. Souvent, je l'utilise pour tout ce qui est nettoyant du sang. En fait, c'est vraiment sa première propriété. Souvent, pourquoi on l'utilise, c'est pour le nettoyant du sang. Et surtout, moi, j'ai eu des beaux résultats là-dessus, c'est la concentration du cerveau aussi.
D'accord, ouais. Et tu la donnes sous forme de poudre à prendre, c'est ça?
Oui,
On fait comme ça.
sous forme de poudre.
Parce que c'est vrai qu'elle a un goût
En fait,
particulier, hein.
c'est souvent que je la donne sous forme de poudre. Le problème, c'est que les gens ont du mal à l'avaler parce qu'elle a un goût qui est juste
Ouais,
incroyable.
ouais, ouais, ouais,
Mais par contre, elle est magnifique, hein. C'est-à-dire que elle produit une forte activité antivirale et elle va même bloquer l'entrée de certaines cellules qui pourraient être nocives.
Mmh.
Elle protège vraiment contre les infections, par exemple le virus de l'herpès simplex,
D'accord.
hein, celui-là, qui
Ouais.
est quand même pas rien, hein, qui est voilà, qui et voilà. Donc cette plante-là, on l'utilise quasiment tout le temps sous forme de poudre. Après, c'est un petit peu comme toutes les plantes, on peut la voir sous d'autres formes, mais c'est plus compliqué de la trouver sous d'autres formes, celle-ci.
D'accord, ouais. Bon, enfin, ouais. C'est vrai que là, c'est, on voulait, moi, je voulais vous faire une petite intro sur certaines plantes. Là, Elodie, c'est vrai qu'on lui dit un nom de plante, mais elle nous sort des propriétés pour énormes, quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est magique, en fait, hein, ce monde des plantes et de la médecine naturelle, la santé naturelle. L'être humain s'est toujours soigné par ça, en fait. On est venu à l'industrie pharmaceutique il y a 60 ans, une centaine d'années max. Avant, c'était que les plantes et ça marchait très bien comme ça. Donc vraiment, dans la nature, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'était un petit peu ça qu'on voulait vous présenter. C'est super intéressant, mais c'est vrai qu'on pourrait continuer beaucoup, beaucoup à en parler tout ça. Malheureusement, l'heure passe un petit peu. On va se faire une petite pause musicale et on revient pour une dernière partie une dernière partie sur les plantes médicinales en Ayurveda. À tout à l'heure. C'est toujours Aïmsa, le magazine Aïmsa Non-Violence sur Radio 666. On est aujourd'hui en compagnie d'Elodie, experte, une thérapeute spécialisée dans la médecine ayurvédique. Et on parle de plantes, moi j'adore. Et on va se faire une dernière petite partie d'émission où on va encore se présenter quelques petites plantes médicinales dans l'Ayurveda, si tu veux bien, Elodie.
Oui.
On est tous les deux fans de plantes, quoi.
Voilà.
Ouais. Et donc tu nous as parlé aussi en tout début d'émission d'une certaine plante, non? C'est ça qu'on avait. Laquelle c'était?
Ce qui peut être intéressant, c'est de parler des épices et de leurs bienfaits. Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des épices, enfin
Ouais.
des plantes qui venaient d'Inde, tout ça. Donc certains n'auront peut-être pas la possibilité d'en prendre. Par contre, les épices, c'est quelque chose qu'on peut mettre assez facilement
Ouais, voilà. Faisons
dans
ça, ouais.
l'alimentation.
Un truc
Donc
pour tout le monde est facile, que vous pouvez tous faire chez vous, quoi. Ouais.
voilà, ça peut être super, hein. Donc on a la camomille, qu'on connaît, hein, très bien, qui peut se faire en infusion ou en poudre. On peut l'utiliser aussi, hein. On a plusieurs façons
Ouais.
de l'utiliser.
Ouais. Alors il y a différents types de camomille. Hein. On va retrouver aussi camomille romaine, par exemple. Pas mal de variétés. Essayez de prendre les camomilles officinales tout le temps.
Oui,
C'est ça.
on a la romaine, l'allemande, on en a plusieurs, effectivement. Oui. Donc elle va aider à soulager les maux de tête, la digestion, les congestions de sang. Elle va favoriser les menstruations. Elle va se préparer avec un petit peu de gingembre frais, la camomille. C'est souvent comme ça qu'on va l'utiliser. On peut aussi faire des bains oculaires
Ouais.
ou en cataplasme aussi, on peut l'utiliser, la camomille.
D'accord.
Pas qu'en épices, en fait, aussi. Donc voilà, c'est une super plante parce que voilà, ça va voyager sur le système nerveux. Et en même temps, c'est une plante qui, là, pour le coup, peut être adaptée pour tout le monde. Enfin, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que là, on ne parle plus forcément de prostitution, hein, tout le monde peut l'utiliser.
D'accord.
Donc elle est très intéressante. Ensuite, on a le basilic sacré, hein, qu'on utilise aussi en France. Donc là, on appelle aussi ça des tisanes de Tulasi. On en trouve des fois même en sachet. Donc dans l'idéal, bon, bah, c'est pas en sachet, hein, c'est en poudre. Et c'est de l'associer avec les pâtes, car comme ça, ça permet de retirer la lourdeur.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les feuilles de laurier, qu'on peut trouver aussi facilement. Hein, donc là, ça va diminuer l'air et puis le mucus dans le corps. Donc, c'est à consommer avec les aliments humides et collants comme le riz, le fromage.
D'accord. Ouais.
Donc, les feuilles de laurier sont très bien en infusion pour les gens qui auraient des problèmes de maux de tête aussi.
Alors, pareil aussi, le laurier, c'est un truc, prenez le bonne variété du laurier. Des fois, il y en a un laurier qui est toxique, le laurier palme, par exemple, celui-là. Je crois que si vous en prenez, vous en prenez trop, c'est dangereux, quoi. Donc, c'est ça qu'on fait avec les plantes, c'est un peu du bon sens. Mais voilà, il y a un petit truc des petits trucs à connaître quand même, quoi.
Oui,
ouais.
C'est vrai. T'as bien fait de lire.
Et voilà, puis aussi c'est vrai qu'en fait toutes ces plantes, finalement quand on cuisine, on met des épices, c'est pas que pour le goût, c'est parce que les épices aussi vont vraiment aider à l'assimilation en fait, à la préparation des aliments. Des fois ça les aide à être mieux cuisinés, ils prennent plus de goût, mais aussi quand nous on va les manger, ils vont être bien mieux digérés et ils vont plus pouvoir libérer de leurs propriétés, ou alors ils vont venir être aussi balancés en fait avec les propriétés des épices qu'on utilise. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un tout en fait l'utilisation des épices, non?
Oui, alors souvent les épices, on n'est pas obligé de les mettre à la fin des repas, parce que moi souvent j'ai des gens qui me disent « Ah bah c'est bon, j'ai mis des épices ». Non, en fait, il faut savoir que les épices ont plus de propriétés si on les utilise au début du repas. Par exemple, si on met des épices dans de l'eau et qu'on fait un mélange d'épices, là on aura plus les propriétés des épices que si on les met à la fin du repas. La fin du repas, c'est vraiment pour donner un goût vraiment à l'alimentation. Donc même si on en met en début de repas, on peut aussi en mettre en fin de repas ou inversement, mais début de repas, c'est vraiment pour les propriétés, on va dire, au niveau du corps, pour aussi, ça va permettre aussi de digérer. Et puis, à la fin du repas, c'est un peu plus pour le goût, souvent.
Et quand tu dis début de repas, c'est, par exemple, on fait un repas avec deux plats, un entrée, un plat de résistance, on va plutôt essayer de mettre la partie épicée dans l'entrée, c'est ça, en fait?
Alors, quand je dis début de repas, oui, je me suis peut-être mal exprimée. En fait, par exemple, si on fait des pâtes, d'accord, on va utiliser le pouvoir de la cannelle. Donc, la cannelle qui va diminuer le mucus, qui va diminuer l'air, qui est très tonique, enfin, très, très bien pour les fonctions cardiaques. Sauf pendant la grossesse, on va l'éviter. Mais sinon, elle sera très, très bénéfique. Donc, on va mettre la cannelle dans l'eau. On va laisser l'eau... avec la cannelle, on va laisser chauffer. Et puis, une fois on aura attendu 10 minutes à peu près, hein, toutes les propriétés de la cannelle vont être dans l'eau. Ensuite, on va rajouter nos pâtes.
D'accord.
Et là, ce sera beaucoup plus bénéfique que si on le met après.
D'accord. On va cuire les pâtes dans l'eau qui a été infusée avec la cannelle, c'est ça?
Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. Oui.
D'accord. Donc, c'est ça, en fait, quand tu disais de mettre les épices en début de repas, c'est en fait de cuisiner notre repas avec les épices en premier, non?
Oui. Oui, et puis voilà, on peut en mettre plusieurs. Hein, on peut faire des associations de ce qui se fait beaucoup, hein, des associations
ouais,
d'épices.
C'est ça. Ouais. Moi, en fait, une petite astuce aussi pour cuisiner, c'est vrai que moi, quand je me fais des légumes, par exemple, je commence toujours dans la poêle, je mets du ghee à fondre ou de l'huile d'olive, et là, j'ajoute des épices que je vais faire, en fait, torréfier, revenir dans l'huile, parce que l'huile a la propriété de capter aussi les saveurs et un peu de les exalter. À travers la torréfaction des épices aussi, comme tu nous disais tout à l'heure, on les rend plus assimilables, mais aussi on développe leur goût. Donc voilà, ça dans la cuisine indienne, ça s'appelle faire un chans, c'est ça, un chans d'épices. Et ensuite, une fois qu'on a ce chans, eh ben, on rajoute après dedans les légumes qui vont être crus, par exemple. On va avoir, en ce moment, par exemple, ça peut être pas mal de feuilles vertes du jardin. C'est vrai que là, par exemple, je me fais des blettes et j'ajoute même des orties dedans. Mais voilà, ça peut être aussi des courgettes que vous achetez, d'autres trucs. Et vous les faites après revenir comme ça dans vos épices. Donc vous faites d'abord torréfier vos épices et vous mettez ensuite les légumes froids dedans. Ça va venir baisser un petit peu et arrêter de la cuisson des épices. Et ensuite, vous cuisinez vos aliments de cette manière-là.
J'ai pas oui, dit... c'est vrai.
Ça va?
Oui, c'est bien, c'est très bien. C'est très bien.
Okay.
Donc, il y a des épices qui sont pour tout le monde, on va dire. Hein. C'est comme les graines de fenouil, le cumin, le gingembre, le safran et la menthe. Ça, c'est vraiment pour tout le monde.
D'accord, ouais.
Voilà, donc, parce qu'on ne peut pas ici et maintenant tout détailler, mais en tout cas, c'est vraiment pour tout le monde.
Ouais.
Voilà, tout le monde peut utiliser ça sans problème.
Ouais, des trucs qu'on va trouver facilement aussi, quoi.
Et qu'on trouve facilement donc en France aussi.
Ouais.
Effectivement. Le fenouil aussi, qui est très bien.
Ouais.
Le fenouil, c'est très bon pour les bébés. Parce qu'on parle souvent des adultes, mais les bébés aussi en ont besoin.
D'accord. Ouais.
Donc, c'est très bon après un repas lourd aussi. Parce que bon, bah, quand on va manger quelque part, des fois, on a un peu l'estomac un petit peu lourd.
Ouais.
Donc, on peut rajouter avant et après, en fait, un peu de fenouil, revenu avec un petit peu de sel. C'est un excellent stimulant digestif à
ouais.
prendre. Mais surtout
voilà.
avant repas, en général. Hein.
D'accord, ok.
Même si on manque de même si on a un système digestif qui est faible. Donc tout ça, c'est des épices effectivement qui sont intéressantes et qu'on retrouve.
Ouais, puis voilà, vous pouvez avoir et implémenter dans votre alimentation sans que ça soit trop coûteux, et puis ça va vous apporter plus de saveurs, plus de variété et plus de fun finalement à cuisiner. Et puis quand on a du fun à cuisiner, on a du fun à manger et puis on est plus
oui.
heureux.
Et pour ceux qui auraient peur de prendre du poids, il y a le poivre noir qui
ah ouais.
est anti-obésité, hein, vu que c'est l'été, je le dis. donc, tous les gens qui ont peur de prendre du poids, ils peuvent prendre du poivre noir.
Ok, bon.
Ou alors la formule là, que j'ai dit tout à l'heure, le tricatou, dans une cuillère de miel.
D'accord, ça va aider aussi à un petit peu l'élimination, enfin, de limiter la prise de poids.
Oui, la prise de poids, ça va agir sur les poumons. Donc, ça va décongestionner les poumons. La petite info, c'est que le tricatou, par contre, ça se prendra après repas ou au moment de la tisane.
D'accord.
C'est
Bon,
vraiment
bon,
à ce moment-là hein, qu'il faut le reprendre.
Super. Bon,
voilà.
on va devoir se quitter, malheureusement, Elodie. Voilà, on est sur un petit créneau d'une heure à chaque fois. Et puis, toi, je sais que tu as quelque chose d'autre à faire maintenant. Donc, je te remercie beaucoup de ta participation, de tout ce que tu nous as apporté dans cette émission. Et voilà, je te laisse un petit mot, si tu veux, pour finir et dire au revoir aux auditeurs.
Eh bien, merci à tous de votre intérêt. N'hésitez pas à faire des retours aussi. Hein, c'est toujours intéressant.
Ouais.
Voilà, je ne connais pas tout non plus. Hein, voilà, même si ça fait quelques années quand même que je pratique. Donc, n'hésitez pas, que vous soyez thérapeute ou particulier. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger, en tout cas.
Super, bah merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation, Elodie. On se retrouve peut-être une troisième fois dans une autre émission, on s'était dit, pour parler un petit peu plus justement d'alimentation ayurvédique. Comme ça, on aura vu un petit peu les différents volets. Hein.
On fait ça, on fait ça.
Génial. Allez, merci beaucoup. Prends soin de toi,
merci.
Elodie. À une prochaine.
Pareillement.
Ciao.
À bientôt.
Voilà, je vous remercie tous pour votre écoute et je vous dis à une prochaine. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.